Georges Courteline, La Bourse. L'immortel auteur de À se tordre, Pas de bile, de Vive la vie et Le parapluie de l'escouade, j'ai nommé Alphonse Allais, a conté une charmante histoire. C'est celle d'une espèce d'enflé qu'il pouvait prendre coup sur coup deux ou trois tasses de café sans éprouver le besoin de dire « Moi, je suis un type d'un genre de Balzac ». Raturer un mot sur une lettre sans déclarer « Wow, je suis un type dans le genre de Gustave Flaubert ». Exposer qu'il est marié à une femme appelée Joséphine, sans ajouter à l'instant même « Wow, je suis un type dans le genre de Napoléon Ier ». La Brême, lui alors cavalier de première classe au 51e chasseur, était un type dans le genre du général Cambronne. Il l'avait 100 fois démontré, mais ce soir-là, il le prouva, l'établit jusqu'à l'évidence. Dans la paix du petit café où vainement il s'entêtait à vouloir rosser au piquet un imbattable garçon boucher de ses amis, les 5 lettres éclatèrent soudain comme une bombe de dynamite. Une personne, au teint de phtisique, qui triconnait dans le couloir comptoir un châle pour ses maigres épaules, réfugia en une canne de toux son embarras bien naturel, tandis que des joueurs de manille déposaient consternés leurs cartes et qu'un vieil habitué de l'endroit, s'interrompant de lire les débats, esquissait de son chef vénérable le muet hochement qui apprécie. C'est que la Brême, cœur pur, âme d'ange, croyait le monde fait à son image, et volontiers l'envisageait à travers la concavité de sa candeur. Conscient de sa naturelle droiture, pénétré par carambolage de la bonne foi de son prochain, l'idée qu'on se pouvait jouer de la sienne dépassait sa compréhension. Ayant à 4 reprises consulté le cadran de l'œil de bœuf et constaté par 4 fois que les aiguilles marquaient le quart avant 8 heures, il en avait tiré cette conclusion bien simple, qu'il était 8h-15. Un peu surpris, sans doute, mais pas énormément, que le temps eût stoppé sur place depuis 20 ou 25 minutes. À la fin, des soupçons lui étaient venus cependant, de vagues anxiétés, on ne sait quoi, un quelque chose de très complexe, où se mariait la peur du surnaturel à la crainte de manquer d'appel, et un pli d'inquiétude au front, il avait demandé au boucher. « Ben, ça, mais quelle heure donc qu'il est ?» Il était 9h-20. Nous avons exposé ci-dessus de quelle façon, à la fois éloquente et succincte, il avait salué cette révélation. Par égard pour la bienséance, nous ne reviendrons pas sur ce point désormais élucidé, mais nous devons, en la vérité, de la mettre ici toute nue. Nous dirons tout. Entre le moment où ses yeux s'ouvrirent à l'évidence des choses et celui où il disparut par le bâillement violemment écarté de la porte, la Brême fut beau d'indignation. Mis debout d'un sursaut, ses regards chargés de haine lancés en dards empoisonnés à l'horloge dont il flétrissait la traîtrise et la perfidie, « Salope » cria-t-il. Et en sa voix se plaignaient les rancunes, les farouches, les âpres rancunes d'un Arnolphe qui s'est laissé prendre au cil baissé d'une sainte Nitouche. Une 10aine de fois encore, tandis qu'il serrait sur son ventre la boucle de son ceinturon, il évoqua l'ombre grandiose du héros de Waterloo, puis il gagna la sortie en donnant leur libre volée à des essaims de « Sacré nom de Dieu !» précipité et retentissant. Dans le glacial silence qui suivit sa disparition, « Il est très bien, ce garçon-là » dit à mi-voix le vieil habitué que l'incident avait arraché tout à l'heure à la lecture du journal des débats. La Brême sortit, toute sa fureur tomba, avorta dans cette prostration accablée qui est fille des grandes catastrophes. Simplement, le garçon boucher, insultant à sa détresse et lançant au calme de la rue les torditruantes d'un ironique gaieté, il y jeta un coup d'œil d'assassin. L'automne, déjà, sur sa fin, agonisait dans des brouillards d'hiver, dans une ouate où, de loin en loin, s'élargissait l'étoile d'un bec de gaz. Le soldat demeurait sans un mot, les doigts aux hanches, le dos montré au petit café dont les mousselines s'enlevaient en clartés indécises, fréquenté d'ombre de géants. « Qu'est-ce que je vois, fiche, bon sang, bon sort ?» Le boucher haussa les épaules. « Zut » fit-il. « T'es trop quoi, aussi. En voilà-t-il pas une affaire parce que t'as manqué l'appel ? T'auras deux jours et ça fera le compte. » Mais l'autre, « Deux jours. Je me fous bien de deux jours, ma parole. » « Eh bien alors ?»« Eh, bougre d'andouille !» dit la brême. « Ben, c'est ma permission dans le lac. »« On t'avait demandé une permission ?»« Parbleu, ouais, une permission de 4 jours pour aller au mariage de ma sœur. » »« Quand ça, donc ?»« Ben, après-demain. »« Oh, flûte !» C'était plus grave. Le boucher cessa de rire du coup. Et soulevant le bord de sa casquette, comme s'il voulait rendre hommage à l'infortune de son ami pensif, il se gratta longuement. Les bouchers sont genre des brouillards, car ils sont enfants des faubourgs. Celui-ci était un malin, de qui l'astuce naturelle s'était un peu aiguisée aux aspérités de la vie. Soudain, comme au loin, très loin, l'horloge de la cathédrale sonnait les 3/4 de 8 heures, et que ce mélancolique rappel de la hâte du temps à s'enfuir rejetait de nouveau hors de soi la brême, un moment atterré. « Ah, ça m'est !» fit-il, « Ah, ça m'est !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» dit la brême surpris. La main brusquement avancée, écarquillée dans le vide, l'œil fixé sur le clair-obscur d'une vision qui se dessinait. « Ben, il y a, répondit-il, que je viens de trouver un truc. » La brême tressaillit. « Un truc ? J'y, pour ma punition, t'y coupe. Non, t'y coupe que je te dis, t'y coupe. Ou alors il n'y a plus de bon Dieu. » « Bon sang de bon sort, faudrait voir ça à voir dans ce cas. » Et à se presser, où c'est dit que perche le quart d'œil ? Rue de la sous-préfecture ? Passez à 2 pas d'ici, allez, radine, vieux flambeau et autre. Et le truc, nous en causons en chemin. Le commissariat ferme à 9 heures, ne manque le temps, allez, allume. » Dans l'arrière-pièce qui lui servait de cabinet et sur laquelle ouvrait le poste, le commissaire de police donnait, puis épongeait en hâte du bloc buvard qu'il tenait à la main, des signatures au paraphe imposant, embrouillées comme des écheveaux. Très sensible au courant d'air, il avait gardé son chapeau et son visage, son neutre et morne visage exempt de toute sévérité, exprimait une douceur plaintive de cocu résigné mais triste. C'était un homme de 50 ans, sa barbe couleur de poussière empiétait jusque sous ses yeux. Un fin grisil de pellicule mouchetait le col de sa redingote, cependant que sur ses phalanges hérissées de touffes à cajou, l'abat-jour de la lampe, dressée près de son coude, déversait des flots de lumière. Quand il eut su par l'agent de service qu'un militaire le demandait, « Faites entrer, » dit-il sans lever le nez. La brême parut. « Le commissaire de police ?»« C'est moi-même, » dit le magistrat. Le soldat avança de 3 pas, ramena le talon droit près du gauche, et la main au shako, il dit « C'est pour la chose qu'en revenant au quartier, j'ai trouvé un porte-monnaie. » Le commissaire de police, de son nom Désiré Trompette, était un homme plein de vertu qui brisait au plus haut degré le commerce des gens de bien. La belle action de ce pauvre diable, se détournant de son chemin pour venir restituer à César ce qui appartenait à César, lorsqu'il eût été si simple d'en engraisser son petit avoir, le remplit d'attendrissement. Ce fut presque les larmes aux yeux qu'il répéta « Un porte-monnaie ?»« Oui, dit la Brême, un porte-monnaie. J'ai trouvé au coin de la rue des Vieilles Filles et du bail des Chardonnerets, à deux pas de la porte du quartier. Quand cela ? Il y a comme qui dirait un quart d'heure. Et vous étiez seul ? J'étais seul. Bien, veuillez me remettre l'objet. » Le chasseur s'exécuta. De sa poche, où sa main plongea jusqu'au poignet, il tira une bourse crasseuse, de ces bourses en forme de blague, qu'étrangle un frêle lacet de cuir glacé de graisse et couleur jus de chic. Elle contenait 11 francs et 7 sous. Alors, ce fut un beau spectacle. Monsieur Trompette s'était renversé dans le dossier arrondi en arc de son fauteuil, et les doigts au rebord de la table, il faisait, d'une voix lente et grave, toute mouillée de conviction émue, l'éloge de la probité. La Brême, lui, faisait la bête, protestait, devenait une fleur de modestie, disait qu'on était tous comme ça dans sa famille, que tout le monde à sa place en aurait fait autant, que ça valait pas la peine d'en parler, etc., etc. Et ainsi ces deux honnêtes hommes rivalisaient d'éloquence, tandis que le boucher, dans la rue, pensait « Bon, je n'ai pas été malin, je n'ai plus de quoi aller prendre un verre, oh, j'aurais dû garder 20 sous. » La Brême coucha la boîte pour avoir manqué l'appel. Mais le lendemain lui valut des surprises. Dans le même temps où le boucher, à l'autre extrémité de la ville, demandait d'une voix angoissée au commissaire de police « On n'aurait pas trouvé une bourse contre la 11 francs et 7 sous que j'ai perdue hier vers 9 heures du côté de la rue des Vieilles Filles ?» Le maréchal des logis Fourier lisait la décision suivante aux hommes assemblés pour le pansage du soir. Sur la demande de monsieur le commissaire de police, une permission de 15 jours est accordée au cavalier La Brême pour avoir trouvé une bourse et l'avoir fidèlement remise entre les mains de ce magistrat. Le colonel livre sans commentaire aux méditations de tous cet acte de haute probité.